poids des appareils. Ça
fait tomber le pantalon. Voilà. Je vais me présenter pour vous me connaissiez un peu plus. Certaines personnes me connaissent, mais qui ne me connaît pas, qui me voit pour la... Oh, il y a beaucoup aussi, oui, voilà. Alors, c'est super. Donc, je vais me présenter un petit peu pour vous expliquer... Oh, bonjour. Et voilà, je m'appelle Hervé Guillois. J'ai habité longtemps Carcassonne, la plus belle ville au monde quand j'y étais. Non, là aussi, mais encore, mais j'habite maintenant plus près de Toulouse. Voilà, plus près des enfants et des petits-enfants, parce que je suis papé, papy, si vous voulez, nous on dit papé dans le sud. Et puis, ça fait bien, je trouve, papé. Papé, papé, avec l'accent comme là. Ça fait Marius un peu, voilà. Non. Et puis, donc, je suis marié, mon épouse s'appelle Chantal. Et j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. J'ai 6 petits-enfants. Voilà. Et puis, j'habite donc maintenant Saint-Sulpice-sur-l'Aise, c'est dans le sud-ouest, à 45-50 kilomètres de Toulouse. Et puis, voilà, Dieu m'a donné aussi un ministère prophétique. Et j'aime l'expliquer comme ça, le ministère prophétique, on ne s'improvise pas ministère prophétique, mais c'est souvent les églises et les ministères qui reconnaissent en la personne un ministère, mais on ne naît pas avec. Voilà, c'est Dieu qui nous choisit. Quand il a dit « mettez-moi à part », mais voilà. Donc c'est comme ça, et puis ça me fait voyager, et ça m'a fait voyager, ça me fait toujours voyager. On dit que les voyages forment la jeunesse, voilà pourquoi. Dans beaucoup de pays et beaucoup de nations, aussi bien dans des pays d'Afrique noire que dans des pays du côté du Népal, l'Inde, le Népal, ou aussi les pays arabes, ou dans d'autres pays anglophones aussi, pour les Anglais ici, Oxford ou Édimbourg. En Écosse ou alors Canada aussi, Montréal, mais aussi les endroits anglophones là-bas. Voilà, je ne parle aucune autre langue que le français. Et j'ai toujours besoin d'un interprète partout. Mon origine, en fait, je suis né à Amiens dans le Nord, mais mon origine est bretonne. Du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle s'appelait Trécherel. Donc c'est bien de ce coin-là. Et puis mon père, ma grand-mère paternelle, c'est de l'Aude, c'est du sud-ouest là. Donc j'ai un mélange des deux. On dit que breton et audois, c'est des têtes dures. Alors je ne sais pas, je dois avoir double tête dure, alors je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et puis, donc dans tous ces pays où je voyage, il y a quand même des gens tellement différents parce qu'ils ne parlent pas la même langue, mais en même temps, on voit comment Dieu agit dans toutes ces nations et comment Dieu est en train de manifester sa puissance, c'est-à-dire que son royaume continue d'avancer, même si par moment, dans nos églises locales, nous ne voyons pas les choses qu'on aimerait tellement voir. Alors, des fois, on est peut-être un peu en rébellion parce qu'on se dit « Ah, on devrait vivre ça ». Bon, voilà, je dis souvent « Et toi, tu le vis, si tu le vis, ça va changer ton église ». Mais c'est vrai que Dieu est quand même en train d'agir et se manifester. Et quand je vois dans ces pays musulmans combien de conversions il y a d'imams et de musulmans, et quand on voit dans l'Inde ou quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer, ben vous vous dites, mais quand même, Dieu n'est pas au chômage, il continue à exercer son ministère et son royaume continue d'avancer. Et au travers des hommes comme vous et moi, et partout dans toutes ces églises, il y a une chose qui nous relie, c'est l'Esprit de Dieu, et on le sent. Alors je vais aussi bien dans des églises charismatiques que non charismatiques. Pourquoi ? Parce que je crois que Dieu est en train aussi d'agir au niveau des églises non charismatiques. Alors j'en ai fait déjà plusieurs, dans les réformés, les frères larges et tout ça. Frères larges, c'est ce qu'il y a de plus étroit, mais c'est pas mal large. Si le nom veut rien dire. Mais en tout cas, on se retrouve, et Dieu, ils sont en train de chercher. Moi, je vois, où je suis allé du côté de Strasbourg, comment maintenant il y a tellement de gens qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Dieu n'est pas limité par l'ambiance ou le lieu, mais c'est lui qui agit comme il veut, quand il le veut. Et c'est d'être prêt là comme un instrument. Et ça, c'est super de voir ça. Puis en même temps, dans chaque église, je rencontre aussi des gens qui sont pareils. Des problèmes, des difficultés, on les retrouve partout, quoi. Et on dirait, des fois, je dis, ah, j'ai été pasteur pendant un long moment, et je dis, ah, il ressemble à telle personne. Mais ça n'a pas la même langue, mais quand même, les problèmes sont les mêmes. Et je pense que Dieu est en travail, et il est en train de changer son Église, en train de transformer, il y a comme une réforme qui se fait de nouveau au milieu de son Église, où l'Église, de plus en plus, va dépendre de la vie de l'Esprit et manifester le royaume sur la terre. En fait, c'est le but. Et puis, moi, si je continue aujourd'hui, même si l'âge avance, je sais que Dieu a quelque chose à faire. Peut-être qu'un jour, j'ai dit, il m'enlèvera en train de prêcher, ça sera bien. Comme il est parti comme ça, ça vaut le coup, quoi. Voilà, il faudra vite rattraper mon manteau. Non, je blague, je fais des blagues. Vous savez, je suis un homme normal, comme tous les autres, avec des difficultés, des combats encore, avec des défauts, mais je sais que Dieu est en train de me transformer. Et c'est ça. Si on est d'accord avec ça, c'est déjà des super champions que vous êtes et qu'on est. Voilà. Donc, je crois que Dieu veut nous se servir de nous et il veut manifester son royaume, mais pas au travers d'une élite, comme on voudrait tellement, c'est tellement plus facile que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le boulot, mais au travers de chacun. Alors, il y a des choses que certains ont déjà vues, mais j'aimerais peut-être aller un peu plus loin en vous passant un petit film. Comme ça, vous direz, on est allé au cinéma ce soir. Non. Mais voilà un petit film qui va vous parler. Alors, je raconte d'abord l'histoire avant qu'il passe le film. C'était un homme ingénieur qui a eu l'idée un jour, il ne connaît pas Dieu, mais il a eu, peut-être un jour il le connaîtra, mais il a eu un jour une idée, c'est de construire un vélo à direction inversée, vous allez le voir, et il démontre au travers de ça que ce n'est pas si facile que ça d'avoir une autre mentalité et combien nous sommes formatés à une façon de fonctionner. Beaucoup de jeunes sont en révolution et disent « Waouh, alors moi je ne me ferai pas au monde et pourtant tu as exactement les mêmes habitudes que les autres. » Alors je vais vous expliquer quelque chose en regardant ce film et après je vous raconterai ce que je veux vous dire exactement. Alors on va le regarder ensemble, je vais me remettre avec vous là et puis après j'essaierai d'expliquer. Ça va pour tout le monde? Voilà. C'est en anglais mais c'est sous-titré. Hein. Meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video what happened, I need to tell you the backstory. Like many six-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this.
And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Justin Samuel. First attempt riding the bicycle.
See that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Yes, it's probably an
voilà, là, j'ai plus un micro, je vais être beaucoup plus libre. Ça marche mieux avec ça. Je n'avais pas fait attention que j'avais ça déjà. Voilà, j'avais oublié. Voilà, vous avez vu ce film, je ne sais pas s'il vous a plu, si vous avez compris quelque chose. Mais il y a une des choses qui est incroyable dans ce qui est dit là, c'est un peu ce qui est écrit dans Romains 12, 2. Vous connaissez ce passage qu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tout chrétien devrait connaître la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Même pas obligé d'avoir de prophète et dire « Hervé, qu'est-ce que tu nous fais ? Tu coupes la branche sur laquelle tu es. » Mais non, si réellement tu as l'Esprit de Dieu,
Tu as un esprit renouvelé et tu peux commencer à voir les choses comme Dieu les voit, dans les choses très pratiques de la vie comme dans les choses spirituelles. On est une seule et même personne. Jésus, on sait qu'il a tout accompli à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Puis il est monté au ciel, il a répandu de son esprit pour nous changer et nous communiquer les dons et sa puissance. Pourquoi, alors, nous ne vivons pas cette puissance aujourd'hui? Est-ce que le Saint-Esprit a changé, ou est-ce un autre Saint-Esprit, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a vraiment laissé de côté, ou est-ce qu'on ne se laisse pas assez conduire par lui? Pourquoi nous ne vivons pas cette puissance comme on devrait? Parce que je crois que nos esprits ont besoin d'être transformés. Vous savez, il y a un homme qui, dans la Bible, dans l'évangile de Jean, qui était Nicodème, qui disait ceci, et il connaissait la Torah par cœur, et il vient vers Jésus, et il dit, que faut-il faire pour entrer dans le royaume? Un homme qui connaissait tout. Et il le dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il fallait donc qu'il y ait une transformation dans notre esprit pour arriver à comprendre et à vivre le royaume de Dieu sur la terre. Pas seulement dans l'Église, mais partout où je suis. C'est ça qui est très important. Et je pense que c'est pour cela que quand on est renouvelé, on devient d'une grande utilité pour le royaume de Dieu. Et je crois en ce qu'un esprit renouvelé, c'est un petit peu le reflet d'un autre monde, un peu. Comme Jésus à la transfiguration, vous vous rappelez dans Matthieu 17, et le mot transfiguré, on voit la traduction en Luc 9, 29, ça veut dire changer. On n'est plus ce qu'on était, mais on est des nouvelles créatures. Et nous ne faisons plus partie de ce monde, tout en étant dans le monde, mais ayant les pensées du ciel. C'est fou ce que je dis. En tout cas, c'est comme ça que ça doit se passer. Quand il est dit aussi dans la parole de Dieu que vous connaissez par cœur ce passage du Notre Père, tout le monde le connaît, c'est la prière universelle, n'est-ce pas, que vous avez chez les catholiques, que vous avez chez les réformés, que vous avez partout, mais en fait les gens ne comprennent pas. Et quand il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu te rends compte? La volonté de Dieu, c'est pas bon? Waouh, super! Heureusement qu'il y a des gens très pratiques. Voilà, moi je ne pense plus à toutes ces choses. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez que dans le ciel, tout est parfait là-haut, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien la volonté de Dieu, c'est que ce qui est parfait là-haut puisse s'accomplir sur la terre. Vivre le ciel sur la terre, c'est tellement important, je pense. Donc, il nous faut demander ou démontrer le ciel sur la terre. Et ça, c'est le travail de tous les chrétiens. Eh bien, ce n'est pas ce que je vois réellement partout, quoi. Normalement, rien que quand on s'est retrouvé depuis tout à l'heure, combien il y a eu de miracles, de guérisons, combien il y a eu de gens transformés, combien les dons, 9 dons se sont manifestés. Pourtant, Paul l'a dit, quand vous vous retrouvez, qu'il y ait tout ça au milieu de vous. Et pourtant, ça ne l'est pas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un autre Saint-Esprit? Je me suis posé la question. Vous savez, avant de servir Dieu, j'étais régisseur d'un conservatoire de musique. J'étais régisseur d'un conservatoire de musique dans le nord de la France, donc à Amiens. Et puis, je m'occupais de ce qui était de la régie du conservatoire, c'est-à-dire, aussi bien on faisait la danse, l'art dramatique, il y avait la classe d'orchestre, il y avait tous les instruments de musique, le solfège, je convoquais les gens pour qu'ils viennent, les jurys et tout, enfin, voilà, c'était tout un grand travail, j'étais un passionné de mon boulot, et je l'ai beaucoup regretté longtemps. Et puis, donc, je faisais tout ça, et vous savez, quand vous avez un concert, et j'en veux en venir à cela, vous écoutez un concert de musique classique, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ces concerts, quand vous voyez avant de démarrer, ils accordent tous les instruments au même la. Et le la est donné par le pianiste. Vous savez ça. Il donne la note et c'est tout le monde s'y met. On a l'impression que c'est une cacophonie pas possible pour celui qui ne connaît pas. Et pourtant, c'est tellement important pour jouer après. Pour être tous pareils. D'ailleurs, quand un guitariste n'a pas accordé sa guitare, eh bien, on en entend les effets. Enfin, moi, en tout cas. Et puis, je crois que Dieu veut qu'on s'accorde. Mais imaginez, un piano. Les pianos, on les accorde dans les coulisses parce que c'est long, il y a beaucoup de cordes. Il faut un facteur qui accorde. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même quelques-uns en France. Et puis, admettons qu'il y ait une note qui soit désaccordée dedans. Mais le pianiste, pour ceux qui sont pianistes, il va toucher à toutes les touches sauf à celle-là. Il saura qu'elle n'est pas bonne. Donc, il l'évite. Il a de la chance d'en avoir beaucoup. Mais voilà, je fais de l'humour en même temps, mais il n'utilise pas. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas en accord avec lui, Dieu ne peut pas nous utiliser. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qui va se passer dans nos cœurs, la révolution quelque part. On ne va pas être d'accord avec tout. On va pas... Parce qu'en fait, on aimerait tellement être en accord avec lui. Et souvent, c'est ce qui nous empêche de vivre le royaume sur la terre. Tu te rends compte, partout où tu es, là où tu iras, tu dois manifester le royaume de Dieu. Donc je pense que c'est important de s'accorder avec le Seigneur. Et puis, je pense qu'il y a le doute, l'inquiétude. Dieu a-t-il réellement dit? Vous connaissez ça? C'était Adam et Ève. Dès le début, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas toucher à l'arbre? Mais aujourd'hui, les chrétiens disent encore pareil. Dieu a-t-il réellement dit? Puis tant qu'ils disent ça, il n'y a rien qui se passe, quoi. Voilà. Parce qu'ils doutent de tout. Et le doute est terrible, quoi. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Est-ce que Dieu m'a dit? Combien de personnes ont reçu des dons prophétiques et qui n'osent pas les dire? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se tromper. Ou des fois, il y en a qui les disent, puis c'est complètement à côté, ils n'ont pas envie d'être repris. Et pourtant, c'est tellement important. Mais je dis cela parce qu'on a tellement du doute en nous, tellement eu de blessures, tellement de choses qui se sont passées. On a tellement fermé des portes qu'on a empêché. Et je crois que lorsqu'on est en accord avec l'Esprit de Dieu, nos esprits deviennent des outils puissants. Et on peut faire des choses extraordinaires. Et je disais avec les responsables, j'étais il n'y a pas très longtemps avec des hommes d'affaires, hein, mais des gens dans les affaires, hautes affaires qui marchent vraiment, hein, comme des vendeurs de voitures de luxe, et puis un autre, c'est un pépiniériste qui a réussi dans la vie, chrétien, et qui m'ont demandé juste d'aller les voir. Moi, j'ai dit, écoutez, j'ai jamais fait les hommes d'affaires comme ça. J'ai dit, comment? Il dit, si. Alors, il y avait d'abord 4 entreprises, et ils m'ont dit, tu viens dans nos entreprises et t'écoutes Dieu sur ce qui ne va pas chez nous. Mais rendez-vous compte, Dieu connaît même les filières pour les entreprises, pour que les entreprises réussissent. La volonté de Dieu, c'est qu'ils réussissent en toutes choses. Alors, je commence à aller et dire les choses. C'était impressionnant. Il y en avait qui ont dit, ah, mais je l'avais dit à mes collaborateurs. Puis il y en a d'autres qui disent, ah, ben voilà pourquoi ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Et il y avait des réflexions incroyables. Puis ça a fait repartir. Et après, ça c'était le matin du samedi. Le samedi soir, j'avais, le matin et l'après-midi, et le samedi soir, j'avais près de 40 entreprises avec des nouveaux dans les entreprises. Et puis, ils étaient là à assister. Il y en avait presque, il y avait bien un quart qui n'était pas chrétien, quoi. Mais des hommes responsables d'entreprise qui sont venus. Écoutez, c'était incroyable comment Dieu a su leur parler pour les amener à changer dans leur mentalité et pouvoir se laisser conduire par Dieu même dans leur entreprise. Et il y en avait un qui était prêt à mettre le bilan, on dit ça, déposer le bilan. Et je lui ai dit cette parole, tu voulais le déposer le bilan, mais Dieu ne veut pas que tu déposes ton bilan. Il faut que tu gères ton entreprise autrement. Et Dieu lui a donné tous les conseils. J'étais très surpris. Et puis de voir comment moi, un bonhomme qui n'a jamais été dans des entreprises, pouvait arriver à donner des conseils à des gens. Et de ce fait-là, ils m'ont réinvité. Parce que les entreprises ont fait un bond, et puis il y a eu des conversions après, et ça c'était entre eux. Bon, alors après, je n'avais pas trop l'habitude, c'est dans des grands hôtels. Alors il y avait mon nom d'affiché sur l'hôtel, c'était impressionnant ce truc, je ne m'y attendais pas moi. Et puis voilà, les grands lunchs, très super bien, mais j'étais surpris de comment c'était vraiment des hommes d'affaires. Tu as un début et tu as une fin, et puis le lendemain tu reprends l'avion. Quoi. Tout est très planifié. Après, j'avais des coups de fil. pour me dire tout ce qui s'est passé depuis par certaines entreprises. Et tu t'es dit, mais comment Dieu connaît? Donc ça veut dire, il faut que nos vies soient transformées pour pouvoir réussir. Moi, je dis, notre pays de France, je suis en colère parce que les chrétiens ont abandonné, quoi. Parce qu'ils prennent ça pour... C'est pas utile. Les chrétiens, je vais vous choquer, ils sont tellement pieux qu'on frit deux des piquets de clôture pour garder les vaches, quoi. Et c'est vrai, mais tellement spirituel, mais c'est pas ça que Dieu demande. Il veut qu'on soit sur la terre. Je prie pas pour vous ôter du monde, mais pour vous préserver du mal. Et on a quelque chose à représenter du royaume de Dieu sur la terre. Et quand tu réussis, eh bien, tout le monde est content et glorifié. Le chômage en France, j'en suis convaincu, peut changer. Je vous raconte une histoire. C'est pas loin de chez vous. Vous connaissez la Vendée. C'est pas loin. C'est pas la Bretagne, mais c'est la Vendée. Voilà, c'est pas un pays gaulois, ni mis à part comme Astérix et Obélix, mais n'empêche que c'est là, maintenant plus autant, ça commence à gagner. C'était la seule région où il y avait le moins de chômage. Vous voulez du boulot, vous allez là-bas, tout le monde en trouve. Je vous promets. Les entreprises cherchent des gens pour travailler, ils n'ont pas assez d'ouvriers, ils ne peuvent pas faire certains contrats parce qu'ils n'ont pas d'ouvriers. Et tout le reste de la France, il y a le chômage. Alors, je me suis renseigné là-dessus. J'ai cherché. Je dis, Seigneur, il y a une raison quand même. Pourquoi ce côté-là? Bien sûr, il y avait un homme, M. Devilliers, qui était là, mais mis à part lui, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr qu'il a favorisé. Bien sûr que c'est un homme qui a construit avec des valeurs du royaume, même qu'il était catholique extrême. Mais n'empêche qu'il a bâti comme ça. Mais c'est la seule région en France qui n'a pas coupé la tête au roi. La seule région. C'est eux qui ont été persécutés parce qu'ils n'ont pas voulu couper la tête au roi. Et c'est la seule région qui prospère parce qu'ils n'ont pas coupé la tête de celui qui dirigeait le pays. Qu'importe ce qu'il était le roi à cette époque, qu'importe ce qu'il est, tous les présidents qui viennent, on leur coupe la tête. Tous les hommes politiques, on leur coupe la tête. On les élue et puis on leur... Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Il y a la conséquence que nous ne pouvons pas prospérer et nous ne pouvons pas nous multiplier, nous ne pouvons pas vivre les choses qu'on devrait vivre, vrai ou faux. Regardez, c'est très significatif. Après, bien sûr, M. Duvier a construit avec cet État, les entreprises viennent là-bas parce qu'ils payent moins de taxes, parce qu'ils sont bénis, et puis ils embauchent. Vous savez, les gens là-bas, chrétiens ou pas chrétiens, c'est les seuls qui ne demandent pas d'augmentation. Et d'ailleurs, on voit ça nulle part, quoi. On paraît impossible, en France, qu'on ne demande pas d'augmentation. Eh bien, eux, ils sont contents, ils ont du boulot. Il y a eu les gilets jaunes qui sont venus, ils les ont foutus dehors. Ils disent, vous n'allez pas nous embêter avec vos histoires, nous on a du boulot, si vous voulez du boulot, vous n'avez qu'à venir. Et ils ne sont pas venus. Je suis allé, je vous promets, dans une église dans le nord de la France, trois quarts de l'église au chômage. Surpris, qu'est-ce que je fais? Je m'étais mis en accord avec des directeurs d'entreprises de la Vendée pour chercher des gens. Je demande, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Nous, on préfère toucher le chômage. Alors là, j'ai dit, oh non, les chrétiens qui me disent ça, mais c'est horrible. En fait, on n'a pas du tout envie de faire avancer le royaume de Dieu. On n'a pas du tout envie d'être heureux, quoi. Alors, bien sûr, vous allez dire, t'es extrême. Je suis français, je vous promets, je vous l'ai dit, je suis français. Et pourtant, je parle comme ça. Et c'est vrai que je ne critique pas la France, mais c'est une constatation. Et si le peuple de Dieu commençait à vivre différemment, et commençait peut-être à s'humilier, chercher Dieu, Dieu bénirait son pays, quoi. C'est bien dit comme ça dans la Bible. Et donc, je crois qu'il y a un renouvellement. Je crois qu'on est tous formatés dans une façon de fonctionner. Vous comprenez? Tous, nous avons pris des habitudes religieuses. Je suis terrible. Ça veut dire qu'on a des façons de fonctionner qui ne sont pas exactement comme Dieu voudrait qu'on en fasse, qui ne sont pas bibliques. En fait, quand tu regardes, c'est purement de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on dirige avec les valeurs du monde, mais pas les valeurs de Dieu. Alors l'Église ne peut pas fonctionner comme il faut. Et je pense qu'on est formaté avec un état d'esprit, même par rapport à tout. Si on regarde dans le domaine l'évangélisation, les trucs, faut que ça soit comme ça, pas autrement. Mais si Dieu il veut faire autrement, quoi. Alors je crois qu'on est loin d'être prêt à se soumettre à ce que l'Esprit nous dit. La parole de Dieu est la vérité. Et je pense qu'on a besoin de changer dans notre façon de penser et notre façon de fonctionner va changer. Si on laisse faire Dieu, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Beaucoup de gens rencontrent Dieu à leur conversion, mais ils n'entrent jamais dans toutes ces expériences avec Dieu. Ils restent comme des bénis-moi, moi, ou des béninois. Pardon. Mais des gens qui, voilà, reçoivent, mais ne sont pas prêts à transmettre. Normalement, il est dit d'être des disciples ou pas. Un disciple doit retransmettre ce qu'il a vécu. Je vous donne un exemple. J'étais en Suisse, à Lausanne, et j'étais dans une église où ils avaient une salle dans un endroit vachement luxueux. C'était, oh, comme on l'appelait, c'est tout, c'est que des bureaux d'affaires, d'hommes d'affaires. Et eux, ils ont leur église en bas. Alors là, la belle église, et puis vous avez restaurant, vous avez tout. Tout est le luxe partout. Ils bénéficient de tout ce que les entreprises ont. Le café, tout est bien comme il faut. Mais en fait, ils sont entre eux, quoi. Et puis, ils vivent bien leur vie entre eux, tranquille, quoi. Pasteur, il donne. Pasteur, il fait ceci. Tout le monde, voilà, nous, on reçoit, c'est bien. Mais jamais eu de nouveau. Puis je dis, mais écoutez, c'est pas normal, quoi. J'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose qui colle pas. Il y a tellement de gens qui se perdent. Alors j'ai dit, écoutez, il y a le marché à Lausanne, samedi matin, vous venez avec moi. Qui veut venir avec moi? Juste 6 personnes. Terrible. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y avait 2 hommes, et tout le reste était des femmes. Les femmes sont plus... voilà. Et puis, on est parti, et j'ai dit, voilà, vous allez apprendre à écouter Dieu pour savoir vers qui Dieu veut sauver aujourd'hui. Je veux dire, c'est des chocs, ça. Nous, on y va avec nos trucs, le nom, le prénom, les questionnaires, et des tas de choses toutes prêtes, très formatées dans notre tête. Ça ne marche pas. Regardez combien vous avez eu de chrétiens depuis que vous faites ça, ça ne marche pas. Donc, on est allé dans la rue. Et eux, les femmes commencent à écouter. Ils se plantent 2 fois, quoi. Je dis, écoutez, c'est pas grave, je vous expliquerai après. Je vais avec les hommes, puis là, les hommes... commence à voir 2 gars qui étaient là, c'était des SDF, et puis il les voit, ah, Dieu veut parler au grand. Je dis, oui, alors dis-moi ce qu'il lui dit. Alors je l'ai laissé faire. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, je trouve. Et puis, il commence à parler, le gars, il dit, non, je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ah bon? Et puis, je dis, toi, tu t'es trompé, c'est l'autre à qui tu devais parler. Je dis, moi, je n'avais rien pour l'autre. Je dis, tu vas voir. Puis moi, je commence à parler à l'autre et je dis, je veux vous montrer. Voilà, je lui dis, tu étais un prothésiste dentaire, puis tu as perdu ton boulot parce que ta femme t'a trompé, tu as tout perdu, puis maintenant tu es à la rue, tu n'as plus de travail et tu es SDF. Et en plus, tu es un dealer de la drogue que j'ai fait. Le gars commence à pleurer. Il dit, vous me connaissez? Je dis, non, je suis français, je ne suis pas d'ici. C'est la première fois que je viens sur ce marché. Il dit, ça alors? Mais je dis, oui, Dieu te connaît. Et Dieu a commencé à faire avec moi un instrument pour révéler la vie de cette personne. Le gars, je lui dis, écoute, peut-être tu voudrais qu'on prie pour toi. Il dit, non, pas là, regarde, il y a des caméras tout autour. Allez à Lausanne, il y a des caméras tout autour. Et ça tourne à angle droit comme ça. C'est incroyable. Il me montre ses caméras, moi je n'avais même pas vu. Il dit, s'ils me voient que vous me parlez, ils vont croire que je vous vends de la drogue et je vais retourner en prison. Alors, dit, non, non. Il dit, mais il y a un arbre là-bas. Alors, il y avait un arbre, c'était un marronnier. Et puis, on est allé sous le marronnier. Et puis là, on a commencé à prier. Mais je n'ai pas parlé, convertis-toi. Normalement, beaucoup de chrétiens auraient fait ça, quoi. Non, j'ai prié pour lui, pour la délivrance. Sans que rien d'autre se passe. Le gars a vraiment été délivré. C'était incroyable. Puis après, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, tu veux connaître celui qui t'a fait ça? Eh bien, on va parler de Jésus. Et le gars se convertit. Mais c'est un SDF. Donc, voilà, il est ce qu'il est, mais des fois, c'est difficile si leur parole est juste ou pas juste, quoi. Puis j'ai dit, écoute, demain, dimanche, tu viens dans cette fameuse église, super, super, super méga. Je me suis dit, qu'est-ce que je lui ai dit de faire ça? Il va se trouver ridicule et gêné. Il a dit, oui, je viendrai. Bon, on verra. Le dimanche matin, au culte, d'un seul coup, un gars habillé en costume trois pièces. Il avait volé son costume. Il est arrivé, puis il me saute dans les bras. Hervé, Hervé, incroyable, j'ai voulu me redroguer, ça marche plus. Il dit, je peux plus faire les mêmes bêtises. Ma vie, elle est complètement changée. Oh, mais je voulais te dire tout ça, c'est incroyable. Je te remercie, je te remercie. Et puis, tellement emballé, le pasteur dit, tu le connais, parce qu'il n'était pas venu avec nous dans les... Alors, je lui dis, non. Il dit, tout le monde le connaît sur la place. Je dis, mais ça serait bien que tu le laisses témoigner. Mais regardez comment on est formaté dans nos idées. Il m'a dit, pas question. Tu sais pas qui il est, il va mettre la panique partout dans l'église. Ils étaient tellement dans le grand confort qu'ils n'avaient pas envie d'être bousculés dans leurs principes. Je vous promets. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Je lui dis « si ». Et il me dit « t'en prends toutes les responsabilités ». Je dis « ok ». Le gars témoigne, toute l'église était en larmes. Le gars bouleversé. Et il nous a raconté que quand il était tout petit, sa grand-mère l'avait amené dans une église évangélique. Et tout lui est revenu. Et il dit « je me rappelle avoir été là, je n'avais rien compris ». Mais il dit « je vois que maintenant c'est exactement ça. Jésus est vraiment le chemin, quoi ». Et si j'avais agi avec mes principes, avec mon fonctionnement, j'aurais jamais pu toucher ce gars-là. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Je crois que beaucoup trop d'entre nous, nous restons sur un acquis ou quelque chose qui nous a été donné, alors que Dieu veut qu'on prenne la parole et qu'on puisse chercher qu'est-ce que Dieu nous dit, comment il nous voit, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. La parole est tellement suffisante, elle confirme toutes ces choses que je vous dis là maintenant. Jésus sait bien ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Et pourtant, pourquoi il ne le ferait plus aujourd'hui? Parce que c'est un autre Jésus? Non, moi je ne crois pas. Et je crois que c'est très important. Quand Dieu a dit « tout endroit que foulera la pointe de ton pied, il est à toi », ça veut dire que tous les endroits où toi tu es, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Donc il doit se passer quelque chose. Tu te rends compte? Et même les endroits les plus difficiles, des gens ils me disent « mais t'as pas vu mon boulot, c'est dur ». Mais je dis « c'est super, c'est peut-être parce que Dieu veut que tu changes l'atmosphère de ton boulot, quoi. Et peut-être que t'as quelque chose à faire, si Dieu a permis que tu sois là. Au jour où tu devras sortir, tu sortiras. Et Dieu t'ouvrira d'autres portes. Mais moi, je pense que bien souvent, on ne raisonne pas comme il faut. Paul parle de ça. On va regarder quand même un passage... Où l'heure là-bas, là-bas. Un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Et le verset 3, il dit quelque chose. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Mais le verset 3 m'intéresse. Il dit, moi-même, Paul parle, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tu te rends compte? Ça veut dire que Paul, même qui était un érudit, c'était quand même quelqu'un qui est un officier, c'était quand même quelqu'un qui était instruit. Il a été instruit au pied de Gamaliel. Il a quand même une connaissance même de la Torah. Il pouvait dire beaucoup de choses. Et il dit qu'il était tout tremblant parce qu'il ne comptait pas sur ses forces mais sur la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que même le plus petit au milieu de nous peut toucher le plus grand qui est ici sur la terre, parce qu'il confond le faible, le fort par le faible, n'est-ce pas? Et moi, je crois tellement en ça. Et je pense que vous relirez verset 9, 10, 11, 12. Je crois que c'est la même chose. Vous savez, j'ai eu à voir des hommes très importants, des hommes politiques, des ministres ou des hommes politiques ou même des... toutes sortes d'hommes de direction dans des pays que j'ai dû voir et qui dirigent des pays, et Dieu avait besoin de leur parler. Mais moi, aller là-bas, ce n'est pas du tout mon style, parce que je suis tout tremblant comme Paul en disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment vont-ils comprendre ce que je vais dire? Est-ce qu'ils vont me recevoir? Moi, Hervé, je n'ai pas une souche qui est représentante des choses politiques. Je n'ai pas du tout de choses qui peuvent me valoriser dans la connaissance. Et pourtant, Dieu confond le fort par le faible. Et je vous raconte peut-être une ou deux histoires. juste une toute petite d'abord, puis après une plus importante. C'était une toute petite, mais c'était tellement rigolo. J'étais, pour ma femme, allé acheter le Télestar pour la télévision. Vous connaissez ce petit livre. Et puis, je vais dans un tabac, journaux, et je rentre là, et c'était dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans. Mais voilà, je passe en voiture devant, je dis, je ne vais pas chercher dans toute la ville un endroit, je dis, il y en a un là, je vais là. Donc, je rentre là. Et puis, il y avait un jeune arabe qui achète des trucs qu'on gratte, là, vous savez, je ne sais pas comment on les appelle, pour gagner des sous. Puis, il investit 2 €. Puis, il prend un papier, puis je lui dis, « Oh non, prends pas celui-là, mais suis juste après. » Comme ça. Le jeune, il me regarde, le patron du tabac me regarde, et le gars, il prend le deuxième, il gratte 20 €, il a gagné. « Oh, qui vous êtes ?» Je dis, « Je suis Hervé Guillois, je ne vous connais pas. » Mais il dit, « C'est incroyable !» Mais je dis, « Tu vois, et devant tous ces gens qui étaient là, j'ai pu parler de Jésus, quoi. » Que voilà, Dieu connaît toutes choses. Je ne m'amuse pas à jouer au loto et gagner des trucs. Ce n'est pas mon style. Je n'ai jamais fait ça. Mais en même temps, je dis, mais regarde Dieu, comment il peut agir dans des situations qui paraissent rocambolesques pour nous. Waouh, moi, je ne mettrai pas les pieds là-dedans. Comme Pierre, rien d'impur ne rentrera en moi. Et pourtant, Dieu, il est allé avec les prostituées, Jésus. N'est-ce pas ? Et il est rentré au milieu d'eux. Et vous voyez comment Dieu peut faire. Et ce jeune homme, il faut revenir. Je dis, oui, peut-être que je te reverrai, mais peut-être que tu viendras me voir encore. Et puis voilà. Ça, c'est une petite histoire, mais quand même, c'est tellement important. Et puis, une autre histoire, c'était, ah, tant pis, il est mort. Maintenant, M. Chirac. Alors, vous connaissez M. Chirac. M. Chirac était apprécié de beaucoup d'agriculteurs aussi, parce qu'il paraissait... Il paraissait un homme bien, très gentil, très respectueux. Bon, faut le connaître, fallait le connaître. Puis voilà que Dieu me parle, il me dit, je veux que tu ailles le voir. Et je dis, Seigneur, m'approcher de monsieur Chirac, c'est impossible. J'irai jamais à Paris. Ils m'empêcheront de passer même la barrière, quoi. Sous quel ordre je vais aller le trouver? Puis le Seigneur, il me dit, Hervé, je te l'amènerai. Dans ta ville, c'était Carcassonne. J'ai ri, je vous promets. J'ai dit, Seigneur, Monsieur Chirac à Carcassonne, une petite ville comme ça. J'ai dit, écoute, Seigneur, ça ne doit pas être toi qui me parles, là, parce que ce n'est pas normal. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, Monsieur Chirac, il vient à Carcassonne. Et je ne savais pas quoi lui dire encore. Puis, Monsieur Chirac arrive, et il est venu parce qu'il a fait le rassemblement francophonie à Carcassonne, et il voulait mettre plein la vue à tous ces gens francophones dans la cité de Carcassonne. Mais M. Chirac était l'homme le plus peureux au monde, l'homme qui avait peur de se faire tuer, vous saviez. Il avait peur de toucher, de parler aux gens. Tous les gens qui venaient pour l'accueillir, ils étaient payés pour crier « Bravo M. Chirac !» Je vous assure, l'État dépense beaucoup de sous avec ça. Tant pis, hein, je vais aller en prison un jour, mais maintenant je suis vieux. Mais alors tant pis. Ils ne pourront plus faire grand-chose de moi. Mais voilà, je n'ai plus rien à perdre ou à gagner. Mais n'empêche, voilà. Donc, moi, j'ai dit, Seigneur, tu vois, moi, je ne serai certainement pas celui qui va être payé parce que je ne pourrai pas dire ce que je ne pense pas. Alors, j'ai dit, bon. Et puis, il me dit, le Seigneur, je vais le faire aller à la mairie de Carcassonne. Tu vas y aller. Tu vas écrire un mot. Sur ce mot, tu diras, celui qui bâtit la maison et qui la bâtit sans Dieu... l'a bâti en vain. Et après, j'écris, et sa fin sera la folie. Puis, ma femme l'a fait elle-même avec les belles lettres, parce que moi, bon voilà, c'est des pattes de mouche un petit peu, mais voilà, en tout cas, en bon français. Et puis, sans faute, et puis, ma femme était dans l'éducation, hein, voilà. Et puis, voilà. Donc, on va... Je dis, Seigneur, d'accord, et il me dit, tu prends le livre et tu le tiens comme ça. Mais je dis, Seigneur, ils vont me voir avec leur lumière rouge et leur fusil, ils vont me tuer tout de suite. Hervé, tu m'obéis. Je dis, Seigneur, mais c'est dur ce que tu me demandes. Alors j'y vais. Ma femme a dû prier beaucoup pour moi. Je vais, je passe devant les premiers gardes. Personne ne me voit. Deuxième, j'arrive à la porte de la mairie. J'ouvre la porte, il y en avait de chaque côté. Je rentre, personne ne me dit rien. je me touche, je dis, je suis pourtant vivant, quoi. Je me sens que je suis toujours là. Je ne comprenais pas. Je monte les escaliers pour aller au bureau du maire. Le maire me connaissait, juste ça aussi. Il est déjà venu à notre église. Donc, il me connaissait. Et puis, j'arrive, il y avait des gardes tout le long d'escalier, il y en avait à la porte de la mairie, du maire, du bureau du maire. Et puis, j'arrive devant la porte, je frappe à la porte, les gardes ne me disent rien. Je dis ça, alors, je dis, c'est incroyable. On m'ouvre la porte, moi je dis secrétaire de mairie, je ne sais pas comment on appelle, celui qui conduit les choses, et il commence à m'insulter, mais à insulter tous les policiers à côté. Comment vous avez laissé rentrer quelqu'un? Mais c'est horrible, il pourrait venir pour tuer. Alors j'ai entendu tous les mots, puis vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Puis moi j'ai dit, j'ai juste un mot à donner à monsieur Chirac. Et puis au moment où je dis ça, le maire reconnaît ma voix, je vous assure, et il vient, monsieur Guillois, je l'entends de loin, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes fou, vous voulez mourir? Alors il a monté la dose, et c'est là que je réalisais que j'ai vraiment fait un gros truc, quoi. Et puis, je dis, je dois donner ça à monsieur Chirac. Je dis, est-ce que c'est possible de le voir pour lui donner? Mais dit, il n'est pas encore là, mais il va arriver. Et écoutez, je vous assure, il vient là. Moi, je lui donne en main propre, parce que je repartirai sur Paris avec lui. En fait, il est venu à Carcassonne avec 3 avions, parce qu'il avait ses tables pour s'asseoir, ses chaises, ses serviteurs, parce qu'il avait confiance en personne, peur d'être empoisonné, je vous promets. Et il est venu avec 3 avions aux frais de la princesse, enfin de nous, et nous avons payé. Et puis c'est toujours comme ça, tous ces trucs-là, c'est horrible. Et puis quand tu sais les fins fonds des choses, c'est terrible. Puis donc, arrivé là, il le prend, puis après je m'en vais, mais là je me suis mis à trembler. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est de la folie. Et puis, je repars tout tremblant, et des grandes transpirations, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et puis après ça, 2 semaines après, pas de nouvelles. Je vais voir le maire, je lui dis, alors, vous lui avez donné? Ah oui, je lui ai donné. Il a regardé, il a jeté à terre le livre, il a jeté à terre votre mot, il a dit « foutaise », comme ça. Et la fin est devenue la folie, et la parole s'est accomplie exactement comme Dieu lui avait dit. C'est terrible, hein, comme quoi. C'est pour ça que quand à la fin, je savais tout ce qui se passait, je dis « oh là 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 », je dis « Seigneur, j'ai donné une parole ». Puis là, et cet homme qui se disait très croyant, enfin, je ne crois pas, mais en tout cas, il se disait pour se faire voir pour les élections et tout, et je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout, et qui était tellement loin, qui a tellement trompé sa femme, tellement fait des choses terribles. C'est horrible. Donc, voilà, il n'était pas si saint que ça, quoi. Malgré qu'on en a fait un grand homme encore aujourd'hui, peut-être on l'aura, il va être canonisé, peut-être un jour, j'en sais rien, malheureusement. Mais là, pour l'instant, il n'est pas là-haut, quoi. C'est ça qui est terrible, hein, parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait, quoi. Et je pense que ça aurait pu être transformé. Vous voyez, je vous dis tout ça, pas pour... J'étais tout tremblant, mais comment Dieu arrivait à faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. Que de toute façon, c'est lui qui va faire et pas vous. C'est-à-dire arriver à abandonner les choses. Qu'importe. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens parfaits. Qu'on fait tout bien, c'est pas vrai. Mais il se sert des gens simples pour faire des grandes choses, des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et c'est ce qu'il fait. Parce que si c'était des gens extraordinaires, la gloire ne reviendrait pas à Dieu, mais aux hommes. Et je crois que moi, je sais mes limites, je sais mes défauts. Je sais que j'ai encore besoin de changer. Donc, je sais que Dieu peut utiliser. Et quoi qu'il me dise, je sais que je peux. Et j'obéirai à ce qu'ils disent. Donc je crois que c'est très important de pouvoir apprendre à obéir à Dieu et faire sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Même si ça ne nous plaît pas. Et c'est toujours contradictoire avec notre nature. Parce que nous, on a des idées bien précises. On voudrait que. On voudrait, ah, moi je voudrais avoir le même don. Moi je veux. Mais non, Dieu il donne comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Et ça ne nous regarde pas. Donc, on n'a même pas à se glorifier parce qu'on n'est pas méritant. Tout est que grâce. Donc, moi, je pense que c'est tellement important, ça. Et je crois que nous ne pouvons voir les choses spirituelles qu'avec les yeux du cœur. Vous comprenez? Parce que sinon, avec notre intelligence, notre mysticisme, nos trucs extrêmes, on ne peut pas voir Dieu. On peut toujours dire « Dieu m'a dit ». Mais il y a tellement de petites choses que Dieu veut nous apprendre. Donc, on est des fois aveuglé. Et on voit avec les yeux humains. Cet homme avec le vélo le disait. Des fois, il ne faut pas se fier à l'apparence. Il ne faut pas se fier aux choses que l'on croit être justes et qui ne sont pas forcément. Parce que c'est ce que Dieu dit qui est juste. Et apprendre à avoir cette sagesse de voir comme Dieu voit, ça change tout, vous ne croyez pas? Je crois que Dieu veut dire ça. Et quand on lit au verset 16, toujours de 1 Corinthiens 2, il dit, 1 Corinthiens 2, 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » 1 Corinthiens 2, 16. « Nous, nous avons la pensée de Christ. » Vous avez la pensée de Christ. Parce que vous êtes des fils et des filles, j'ai entendu en arrivant qu'il a lu ce verset. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et si Dieu habite en nous, alors on a le même héritage que Christ a eu parce que on est exactement comme lui, n'est-ce pas? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je pourrais presque dire, mais ça, c'est des blasphèmes pour certains, je suis Jésus. Je vais dire, mais Hervé, t'es gonflé. Mais écoute, si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il a pris toute la place. Et quand les gens me voient, ils ne me voient pas, mais ils voient Jésus. Vrai ou faux? N'avez-vous pas eu des fois des gens qui vous ont dit, t'es autrement que les autres? Il y a quelque chose en toi. Alors, ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Bien sûr, c'est des chocs, ce que je dis là. Peut-être ça peut choquer votre théologie, mais tant mieux. Mais en même temps, je suis un prophétique, alors donc je suis provocateur aussi. Mais je pense que Dieu veut faire des choses. Nous, nous avons la pensée de Christ. Et un esprit renouvelé voit la perspective de Dieu. Un esprit renouvelé détruit aussi les œuvres du diable pour que le ciel soit sur la terre. Allez libérer les captifs, allez. Mais c'est tout à fait au même degré que quand tu te convertis. Des fois, on croit à la conversion et on ne voit rien. Et pourtant, on croit qu'il est sauvé. Mais qu'est-ce qui te le prouve? Mais les dons et tout ça, on a du mal à y croire. Alors pourquoi? Pourquoi y a-t-il une telle différence dans tout ce que nous croyons? Peut-être que c'est là qu'il doit changer. Et je pense qu'un esprit renouvelé permet au royaume de Dieu d'exister donc sur la terre comme au ciel. Et beaucoup trop de chrétiens, pardon, je vais encore vous choquer un peu. Imagine Jésus comme un intellectuel médiocre, d'autres comme un analphabète impulsif, d'autres comme un petit homme faible, dépressif, qui n'a pas pu sauver sa vie. Et vous allez dire, c'est pas moi. Et pourtant, ton comportement veut dire cela. Puisque tu ne vis pas sa puissance, ça veut dire que tu crois que Jésus n'a rien fait. Vous voyez, quand on retourne de l'autre sens, c'est incroyable. Et je crois que Jésus, il est tout l'opposé. Jésus est quelqu'un qui est complètement l'opposé. Il est maître intellectuel. Ses pensées sont créatives. Elles sont glorieuses. Son sourire est brillant. C'est la Bible qui dit ça. Toute sa personnalité rayonne de la gloire de Dieu. Les enfants l'aiment. Son onction attire les foules. Et Jésus est ainsi et il habite en vous. Alors, pourquoi vous n'attirez pas toutes les foules? C'est vrai ou c'est faux? Si réellement il habite en vous. Ça remet plein de choses en question. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par Nicodème, parce que je crois que peut-être je me demande si tout le monde est né de nouveau. Ça fait remettre beaucoup de choses en question. Ça veut dire, dans ma façon de fonctionner, est-ce que je vis vraiment le royaume de Dieu? Vous savez, quand on a 20 ou 30 ans ou 40 ans de conversion, qu'on entend ce que je dis aujourd'hui, des fois, ça remet toutes les pendules à l'heure. De se dire, je me suis peut-être planté. Ou peut-être qu'il faut que je reprenne la parole de Dieu. Peut-être qu'il faut que je l'écoute. Peut-être qu'il faut que je laisse l'esprit me parler au travers d'elle et qu'il me transforme mon esprit et ma mentalité. Peut-être. En tout cas, ouais. Jésus est en vous. Alors, je crois que Dieu veut nous apprendre à vivre sur la terre comme si on était au ciel. Souvent, beaucoup de chrétiens arrivaient des fois à la limite où ils sont prêts à mourir. Ils me disent, comment ça va être dans le ciel ? Et bien, je dis, comment tu as vécu la vie sur la terre en tant que chrétien ? Et ça sera le même. Hein. Ça veut dire que je crois que le ciel, on peut le vivre sur la terre, puisqu'il dit la même chose. Donc ça veut dire qu'on peut vivre les mêmes choses qu'on va vivre là-haut. Et si tu n'es pas préparé déjà à le vivre là, là-haut, tu vas avoir des chocs. Tu vas dire, waouh, je ne peux plus supporter. Et moi, je crois qu'on doit apprendre à pouvoir dépendre de lui, vivre cette vie intime avec lui, même dans des petites choses comme dans des grandes choses. Dieu veut nous apprendre à peut-être vivre autre chose. Vous savez, vivre la réalité de sa parole sur la terre. Moi, je crois que c'est très important. Et rendez-vous compte, toute la Bretagne va être changée. Mais si tous ceux que nous sommes ici commençons à prendre au sérieux ce qui est écrit et le vivre, et toute la Bretagne est changée. Même les puissances d'occultisme sont détruites, vraies ou faux. Ça veut dire qu'on a triomphé à la croix de tout ça, et celui qui est en moi, il a gagné. Et donc, c'est plus lui qui vit, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Donc, je peux être une démonstration de cette puissance, puisqu'il me donne des dons, et il fait reculer les puissances de ténèbres. Tu te rends compte ? Je vous raconte une histoire, ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue à Toulouse, il y a quelques années en arrière. J'allais juste à la CLC acheter quelque chose pour ma femme, je traverse la place, et il y avait des chrétiens qui avaient mis un grand stand et qui faisaient des trucs plein air. Ils ont eu le droit, devant la mairie, à faire un grand truc. Et puis, moi, je n'étais pas au courant de ça. Mais je passe comme ça et je suis obligé de passer devant. Oh, je dis, super ce qu'ils font. Et ils me voient. Puis, celui qui organise dit, Hervé, t'es là. Alors, tu vas prêcher la parole. Je n'ai pas prévu ça, moi. Je dois aller à la CLC là-bas pour chercher. Oh là 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 là. J'ai dit, comment ? Ils me mettent une Bible, ils disent « prêche ». Il y avait une foule de gens. Et au moment où je commence à prêcher, alors là, heureusement que Dieu te donne des ailes à ce moment-là, d'un seul coup, un orage terrible, je vous promets. Ça a pété dans le ciel, alors quelque chose de fort. Puis ça s'est mis à pleuvoir, mais tellement fort, comme il dirait dans le Nord, ça drache. Je ne sais pas si on dit ça ici, mais ça tombait tellement fort. Et moi, j'étais là. Et puis, tout le monde s'en va. Les chrétiens s'en vont. J'étais tout seul avec ma Bible, là. Et il y avait deux personnes qui étaient devant moi. Et deux personnes qui étaient sous la flotte comme moi. Et c'était deux sorciers qui avaient pignon sur rue à Toulouse. Très connus. Et ils étaient face à moi. Je crois qu'il y avait une guerre spirituelle qui a déclenché l'orage. J'en sais rien. On pourrait l'expliquer peut-être cela. Mais en tout cas, c'était un phénomène naturel qui s'est produit. Et il y avait la confrontation entre eux et moi. Et eux étaient devant moi en train de lancer des trucs pour me tuer, quoi. Et moi, j'étais en train de prêcher l'évangile. Et les gens, à la fin, se sont touchés par Dieu. Qui est celui qui est plus grand que le nôtre ? Je dis, c'est Jésus. Et ils ont vu, après avoir lancé des trucs sur moi, ils se sont convertis, ils se sont mis à pleurer. Mais j'étais pourri, noyé. Eux aussi, il n'y avait plus de chrétiens. Vous voyez, alors que c'était là où rentre en jeu la grande démonstration de la puissance de Dieu. Et puis, j'ai dit, mais ça valait tellement le coup. Les deux qui étaient plus importants sur Toulouse se convertissent à Jésus-Christ. C'est de la folie, quoi. Alors moi, j'étais même pas de ces églises là-bas. Je leur ai dit, j'étais à Carcassonne, il y a des églises là, allez demander à ceux qui ont organisé, ils vont vous dire pour vous aider, ou des chrétiens qui vont parler avec vous, quoi, vous enseigner. Et puis, je suis allé chercher mes livres à la CLC après ça, comme si rien n'était, quoi. Voilà, c'était un truc naturel, peut-être, je ne sais rien. Mais moi, j'oublie très vite. Et puis, le gars, il m'a dit, « Oh, si vous arrivez, vous êtes tout mouillé. » Je dis, « Oh là, oui, oui, il a plu beaucoup, j'étais sous l'eau, quoi. » Mais je n'ai pas rentré dans les détails. Mais voilà, pour vous dire, ah, démonstration de confrontation de puissance. Peut-être que je raconte une autre pour vous montrer que ce n'est pas si dur que ça, les sorciers, quand même. Ils ont du pouvoir et de la puissance, hein, je vous promets. Mais notre Dieu est plus grand. Je vous dis un peu juste une autre histoire. Quand on a l'Esprit de Dieu, j'étais à Madagascar. Et il y a plusieurs années en arrière, on a ouvert à peu près 80 églises là-bas, pas tout seul. Puis maintenant, ils sont 160 églises dans la brousse, hein, là où il n'y a rien, où il faut aller vraiment 4x4. Et puis, on était, tu ne vois pas, il connaît, mais il n'était pas là à ce moment-là. Et puis, on a fait plusieurs endroits, on ouvrait des églises. Et le premier endroit où on est allé, à chaque fois, les sorciers venaient, cassaient tout et détruisaient tout. On construisait un dispensaire, ils ne voulaient pas, ils détruisaient tout. C'est terrible. Et puis, on ne m'a rien dit de cela. Et on m'envoie là-bas. On dit, Hervé va là-bas. Celui qui organisait, il n'est pas venu. Ouh là là. Il savait ce qui allait m'attendre. Et puis, j'arrive là-bas, et il y avait quelques chrétiens, ils avaient essayé de mettre un abri avec des, on dit des feuilles de bananier, c'est les feuilles du voyageur qu'on appelle ça, du grand, voilà. Bref, ils étaient là-dessous, et puis on était là, puis ils avaient fait des genres de bancs. Bon, c'était tout un système très archaïque avec des bambous, mais c'était bien quand même. Et puis voilà, et les chrétiens étaient tout au fond là-bas, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis il y avait 10 personnes là devant, et puis j'ai dit, oh là 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 là, c'était 10 hommes, en fait c'était 10 sorciers. Et qui étaient venus pour me tuer. Leur but était ça. Et puis, moi, je parle de livrer du bon grain. Jésus m'a dit de parler sur ça. Et vous savez, ils ont semé de la bonne semence, et c'est écrit dans le texte, et puis les fils du malin sont venus pour semer la mauvaise graine au-dessus, pour étouffer la bonne graine. Puis je raconte, et dans ces pays, il faut mimer les choses. Alors, on raconte l'histoire, et puis j'ai un traducteur, bien sûr, pour me dire. Et puis quand je faisais tout ça, et je me tourne vers les 10, et les fils de malin, c'est vous, les sorciers. Une provocation, sans savoir qui ils étaient. Et alors là, ils ont commencé à faire avec des amulettes, vous savez, tous des systèmes pour me tuer. Ils ont tout essayé. Les chrétiens, quand j'ai dit ça, ils étaient au bout, ils ont fait, ah, il est fou, il dit, il veut mourir. En fait, j'ai continué, puis je dis, mais il y a une solution. Si vous donnez votre vie à Jésus, Dieu peut transformer le mal en bénédiction et il vous pardonne tous vos péchés. Écoutez, ils se sont tous levés sauf un. Et celui qui ne s'est pas levé, à la fin, il s'est quand même levé parce qu'il a eu peur des autres, parce qu'ils l'ont regardé comme ça et il s'est levé. Pas de moi, mais de, il a eu peur. Alors, c'était assez spécial. Bref, les chrétiens ne comprenaient pas, ils étaient perdus. Ils disent qu'aussi, il est mort, puis tout le monde est mort, quoi. Et ils avaient un pouvoir, il y avait même un hôtel où ils faisaient des sacrifices d'êtres humains. C'est incroyable, ça existe encore quand même. Et puis, et pour les puissances de ténèbres, et eux, ils touchaient les sous de ces gens. Donc moi, j'arrivais, ils avaient peur que je prenne leurs sous, quoi. Moi, j'en avais rien à faire, mais bon, voilà, pour eux, c'était comme ça. Donc ils voulaient me tuer à cause de ça, et ils détruisaient. S'ils vont vers un autre dieu, eux, ils n'auront plus de valeur. Puis, après, passe, et je les vois dehors, alignés tous l'un côté de l'autre, ils me regardent de la tête aux pieds, d'un air de dire, ils voyaient un extraterrestre, je ne sais pas quoi, ils ne comprenaient pas que j'étais pas mort. Et puis, je pars. Puis, 2 ans après, je vais là-bas, et là, je ne vais plus dans les églises, mais je vais voir tous les responsables de toutes les églises qu'on avait ouvertes, et c'est eux qui viennent pour que je leur apporte quelque chose. Et d'un seul coup, il y en a un parmi eux tous qui me regarde. Il lève son chapeau et puis il me dit, tu ne me reconnais pas. Et il parlait en français, lui. J'ai dit, non, qui es-tu? J'étais le chef des sorciers quand tu es venu dans notre village. C'était moi le grand chef. Maintenant, je suis prédicateur de l'évangile, tu vois. Et puis j'ai une église. Je dis, bah, alors là, les gens doivent avoir peur de toi. Ils vont se convertir à cause du passé. Il dit, non, mais il dit, ma vie est complètement changée. Il était tout heureux et il me remerciait de cette prédication qu'il n'a jamais oubliée de sa vie et qu'il s'est rendu compte qu'il était un pécheur et qu'il était perdu, quoi. Et c'est fou. Vous voyez, je n'ai jamais fait d'occultisme. Je ne connais pas du tout cela. Mais Dieu connaît. Donc, il veut nous amener à penser différemment, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, c'est des versets qui sont tellement réels, profonds, mais on n'y croit pas. On y croit superficiellement, peut-être. Parce qu'on le confesse toujours et on pense qu'avec de vaines paroles, on va changer. Mais on ne change rien. Ça, c'est faire comme les cathos. Ce n'est pas ça. Vous savez, je ne suis pas une critique d'eux, mais ils répètent beaucoup des vaines redites et puis ils pensent qu'ils vont être sauvés avec ça, quoi. Mais ça ne sert à rien. Mais c'est vivre les versets de la Bible. C'est qu'ils soient à nous, en nous, et qu'on puisse les vivre et les transmettre aux autres. Nous avons la pensée de Christ. Et je crois que Dieu veut nous amener à transformer cette terre et commencer à faire du vélo à direction inversée. Et je vous ai montré ce film pour vous montrer aussi que c'était possible. Dans notre tête, nous sommes habitués à un fonctionnement bien spécifique, mais laissez Dieu vous remettre avec cet esprit du royaume de Dieu, cette pensée du ciel en vous, pour penser comme lui et vivre comme lui. Et ça va faire la différence. Ça veut dire que tu vas résister au péché, tu vas tenir ferme, parce que par amour pour lui, tout va devenir possible. Ça ne deviendra pas contraignant parce que tu as changé ta mentalité. En fait, Dieu a transformé une métamorphose, un changement total. Je crois que Dieu veut nous apprendre cela et à vivre réellement ce qu'il nous a donné. Je ne sais pas quelle heure il est, 4 heures, c'est ça? Ça va? C'est dans les temps? Voilà, parce que je veux faire une petite pause, mais je ne sais pas quelle heure, 4h30? Oui. Ça va? Donc, juste pour vous dire ça, c'est très important. Je crois que l'esprit de l'homme a des grandes, grandes capacités. L'être humain, aujourd'hui, ne mesure pas à quel point l'homme, l'être humain, a été fait d'une telle façon qu'il peut faire des choses extraordinaires. Et on n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau. Mais si l'Esprit de Dieu vient en nous, ça développe notre perspective. C'est dur les mots français. Voilà. Ouais, c'est un mot trop compliqué. Ça ouvre notre esprit à des choses nouvelles pour vivre le ciel sur la terre. Et je pense qu'on retrouve toutes les qualités que Dieu nous a données à l'origine. Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme. Il faut bien que je dise l'homme et la femme, parce que j'ai eu un problème dans une église. Quand j'ai dit comme ça, les hommes, il y a une personne qui s'est levée dans la salle. « Monsieur, il n'y a plus ni homme ni femme. » Ça n'existe plus. Je peux vous attaquer en diffamation. Comme ça. J'ai dit, mais c'est écrit comme ça dans la Bible. Et je ne dis pas les hommes plus que les femmes. J'ai dit, parce que cette femme, elle était femme, mais elle n'était pas femme. Mais en fait, elle avait une autre perspective. Voilà, elle voulait être homme, quoi. Alors pour elle, c'est comme si j'attaquais des choses, des valeurs qu'on n'a plus le droit d'attaquer aujourd'hui dans la société, hein. Et en fait, ce n'est pas une attaque que je faisais, c'était vraiment... Et je pense que Dieu veut nous apprendre quand même à retrouver ce qui nous a été volé dans notre vie. Et je pense retrouver les mêmes valeurs et les mêmes capacités. Moi, le premier, j'étais loin de parler en public. Je ne savais pas. Et comment l'Esprit de Dieu peut changer notre façon d'être pour rentrer dans des choses qui ne sont pas dans notre naturel, quoi. Ça veut dire qu'il a une partie de ma personne, il a tellement changé que je peux faire des choses que j'étais incapable de faire humainement. Et j'aurais même pas pu faire, et j'aurais même jamais osé faire. C'est pour ça que quand je vois des gens qui se disent tellement faibles, fragiles, qui n'ont pas fait beaucoup de choses dans leur vie, qui ont raté dans leurs études, je dis, mais... Si l'Esprit de Dieu vient en eux, Dieu peut racheter ce qui a été volé. Moi, j'ai vu à des gens refaire des études à un âge avancé et réussir. C'était un gars, je vous raconte, c'était en Bretagne. Alors, vraiment, je me rappellerai toujours. Ce gars-là, il était sur les marchés, il faisait des bracelets et des trucs comme ça. Il vendait ça, il était hippie. Enfin, je ne sais pas si on dit hippie, enfin, en tout cas, voilà, avec une autre perspective qu'on avait avant, habillé avec des habits comme ça. Et puis, ce gars-là, touché par Dieu, il se convertit, refait des études, il est prof maintenant. Tu te rends compte? À 30 ans, il a refait des études, il est devenu instit. Il aurait été content, frère. Dire, waouh, ça c'est bien. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, il a une valeur. Il est marié, sa vie est stabilisée. Et il peut vivre des choses incroyables. Et même, il paraît que dans son village, on lui a demandé pour être dans la municipalité, je ne sais pas, voilà. C'est fou, un gars qui sort de la rue, quoi. Comment Dieu peut redonner. Donc ça voulait dire que tout être humain a des capacités intellectuelles. On n'est pas tous appelés à vivre les mêmes choses. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il y a une telle transformation qu'on peut bouleverser la société et retrouver des choses. Et moi, je suis pour. Je parlais d'homme d'affaires tout à l'heure. Moi, j'aime les gens qui osent entreprendre des entreprises maintenant pour refaire refructifier. Et moi, je les encourage quand ils ont toutes les capacités, qu'ils veulent bien se faire aider pour gérer ça. J'en ai vu plusieurs, là, à Mulhouse, mais j'en ai vu aussi à d'autres endroits où des gens qui, maintenant, des jeunes, commencent à faire des choses. Mais c'est incroyable, les capacités. Tu te dis, mais une et ça, c'était caché, c'était pas visible, parce qu'on disait qu'ils avaient raté à l'école. Et c'était des gens tellement doués qu'en fait, on ne s'est pas occupé d'eux, quoi. Et ils avaient toutes les capacités, c'est terrible. Ça, c'est un peu notre pays où on laisse de côté ceux qui ont une capacité. Mais pourtant, aujourd'hui, bien voilà, ce gars a pris l'entreprise, il a démarré et elle produit beaucoup de fruits, quoi. Et il a toujours plein de projets. Bon, je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit un peu raisonnable aussi, mais il va aller trop vite. Mais je pense qu'il faut asseoir les choses, mais il a besoin de conseillers. Moi, ce n'est pas mon boulot, mais il y en a qui ont des boulots comme ça pour conseiller les entreprises, et je pense que c'est important aussi. Et je crois que Dieu veut vraiment ça, qu'on reprenne tout ce que Satan nous a volé. Et il en a volé des choses à beaucoup. Ou des gens qui sont nés dans des familles qui ont beaucoup souffert, et qui, à cause de ça, ils subissent des conséquences dans leur vie et ils ne peuvent pas être vraiment libres pour réussir, alors que toute l'intelligence est là. Et Dieu guérit, transforme, libère, pour pouvoir rentrer dans les choses qui sont préparées par Dieu. Et tu vois un tel changement, mais c'est fou, quoi. J'en suis le témoin pour moi-même. Mais de voir comment Dieu peut bouleverser les choses. Moi, je suis né dans une famille. On était quatre enfants, quatre garçons. Et j'étais le seul. Mon père était un homme ingénieur. Il connaissait l'allemand, l'anglais, le latin. Il connaissait beaucoup de choses. Et puis, j'étais le seul qui l'a dit. Toi, tu ne feras pas de langue. Tu ne peux pas faire d'études. Toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne sais pas sous quel critère il a dit ça. Mais j'étais condamné à faire le feu le matin dans la chaudière pour que mes frères aient bien chaud pour les études. Et puis, très tôt, il fallait que je me lève le premier. Puis j'ai été élevé comme ça, parce que mon père avait décidé. Et moi, quand j'écoutais aux portes, j'ai dit, waouh, c'est beau ce qu'il parle. Dans ces... Mais je disais, c'est pas pour moi, quoi. C'était résilié. Eh bien, figurez-vous, quand Dieu m'a touché, le premier don qu'il m'a donné, c'est le don des langues. Comme quoi, il savait que j'avais souffert de ça, et j'ai parlé plus de langues que tous mes frères. Le chinois, le roumain, l'arabe, tout, mais des choses incroyables. Des paroles, le don des langues qu'il m'a donné, que j'ai pu donner sur des messages pour des gens qui ont été bouleversés, convertis et tous, des fous, quoi. Alors, tu te dis, mais Dieu change le mal en bénédiction, et moi, je n'avais jamais appris ces langues. Le jour où j'ai parlé chinois, je vous le raconte, c'est un truc tout simple, hein. J'étais à Montpellier dans l'église que j'ai créée, et puis, on était là avec des jeunes, ils aimaient bien être avec moi, on parlait de Jésus, la Bible, et puis c'était très à bâton rompu avec les questions. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que comme ça, chacun s'exprime, quoi. Et puis, d'un seul coup, je me mets à parler dans une langue que je ne comprenais pas. Puis, qu'est-ce qui m'arrive? Puis, d'un seul coup, un Chinois arrive, étudiant, il rentre là, et il entend ce que je dis. Oh, il dit, vous parlez chinois? Vous m'avez donné la réponse que j'ai demandé à Dieu, précis. Je regarde, écoute, je ne me suis pas rendu compte, qu'est-ce que j'ai parlé? Mais il dit, c'était ma langue natale, là où je suis né avec le même dialecte. Il dit, mais c'est incroyable. Et rendez-vous compte, Dieu s'est servi, quelqu'un qui n'a jamais appris le chinois, pour parler chinois, quoi. Et aujourd'hui, il faudrait leur parler par rapport à leur cours au 19, là. Mais en même temps, tu te dis, ah Seigneur, quand il connaît les choses, comment il peut interpeller, il peut parler, il peut vous utiliser, même dans vos faiblesses, Dieu se glorifie. Et moi, je dis, c'est extraordinaire. Et ça, ce n'est pas pour une catégorie de personnes qui sont meilleures que les autres, c'est pour tous ses enfants, c'est ça. Marc 7 s'est adressé à tout le monde, n'est-ce pas ? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voici les miracles, les guérisons, voici... Mais n'est-ce pas que ça, c'est bien écrit pour nous tous, même s'il y en a qui mettent en doute ce verset, ils disent qu'il a été rajouté. Ça, j'ai entendu de toutes sortes avec la parole de Dieu, mais n'empêche que c'est écrit, ça veut dire que tous ceux qui croiraient peuvent vivre ça, même ressusciter les morts, quoi. Et Dieu peut nous faire vivre ça. Ou délivrer les captifs, ou avoir le don des langues, discernement des esprits, don de guérison, parole prophétique, parole de connaissance. En fait, tous les dons, les 9 dons, devraient tous les utiliser, quoi. À des moments bien précis où Dieu veut vous utiliser. Je me rappelle d'une histoire une fois, oh, j'en ai des histoires, mais il y a longtemps, hein, j'étais avec ma femme, on achetait une machine à laver. Voilà, c'est un truc banal, hein. Puis à cette époque-là, il fallait, c'était pas le ticket qui faisait bon de garantie, il fallait aller pour remplir toute une feuille pour faire le bon de garantie. Bon, c'est bien. Alors on va voir la femme, puis d'un seul coup on s'assit, et voilà que Dieu me raconte toute sa vie, je lui dis toute sa vie à la femme. La femme se met à pleurer, elle a tout inondé le bon de garantie, il n'y avait plus de bon de garantie, il est tout mouillé, il n'a servi à rien, heureusement que la machine a tenu le coup après, mais... Tout était... Et la femme a dit, mais qui vous êtes ? Vous avez raconté ma vie. Moi, je ne suis pas venu dans ce but-là. Je suis venu dans le but d'acheter une machine à laver. Et ma femme a dit, quand même, tu vas arrêter, quoi. J'ai dit, écoute, voilà. Mais je pense que c'est pas... On doit être disponible tout le temps, quoi. Et ce n'est pas juste à l'église le dimanche matin, quoi. Mais c'est dans notre quotidien, dans votre boulot, dans votre entreprise, là où vous êtes. Combien de fois au conservatoire de musique ? J'ai dû vivre des choses incroyables comme ça, quoi. Des guérisons, des choses spectaculaires, quoi. Vous en racontez une ? Non. Oui, tant pis. C'est des choses que j'ai vécues. C'est comme ça que j'apprends, moi. Hein. Dieu me fait apprendre au travers des choses. Et puis, j'étais au conservatoire, voilà. Quand on disait Hervé, Hervé avait la solution à tout. Voilà, c'était moi. Oui, j'ai appris nombre de tons, quand même. C'est super. Et j'avais la réponse à tout. Et puis... À un moment, il y avait dans la classe de solfège un enfant qui tombait toujours comme ça d'un seul coup. Et puis, voilà, il avait déjà vu des spécialistes et tout. Bon, bref, peu importe, il tombait. Et puis, tout de suite, on entend « Hervé, 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 où il est Hervé ? Viens t'occuper de ce garçon. » Je ne suis pas du tout infirmier, je ne sais pas du tout quoi. Et on me le file dans les bras et je l'amène dans mon bureau. Et puis, je dis « Wow !» Je dis « Ça ne va pas !» J'ai terriblement mal à la tête, terriblement. Il dit, voilà, on a décelé que j'avais une tumeur au cerveau. Et là, je crois que ça touche quelque chose parce que je ne suis vraiment pas bien. Et puis, il tombait en syncope régulièrement. Et ça, il savait qu'il avait ça. J'ai dit, écoute, tu sais, moi, je suis chrétien. Mais j'avais demandé pour fermer toutes les portes de mon bureau. Je n'ai pas... que je n'étais pas encore très rassuré, donc pas qu'on me voit. Et puis, on n'a pas le droit, normalement, bon, voilà. Et puis, j'étais avec lui, j'ai dit, voilà, j'ai dit, écoute, je sais, Jésus guérissait les malades. Est-ce que tu me permets de prier pour toi ? Il a dit, oui, j'ai mon oncle qui est comment il a dit ? Il est, pas curé, mais plus, enfin, tout comme ça, quoi. Il était prêtre, quoi. Voilà, chanoine, oh, je ne sais pas comment on dit. Bref, il était important dans l'Église catholique et il dit, oui, il m'a parlé déjà de Jésus. Alors, bon, donc, mais je dis, je vais prier au nom du même Jésus, si tu veux, quoi. Alors, tu vois, et je mets ma main sur sa tête, puis je lui dis, maintenant, sois guéri. Oh, je n'ai pas fait de discours. Et là, il dit, j'ai plus mal à la tête. Mais je dis, t'es guéri, quoi. T'as plus de tumeur. Je dis, mais écoute, va voir les... passer une radio et regarder où ça en est pour connaître la vérité. Puis il est allé et ils ont constaté que sa tumeur était devenue toute petite, desséchée. Alors il dit, qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit, un homme qui a prié pour moi. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai plus mal en tout cas. Et là, les médecins ont constaté qu'il y avait vraiment cette tumeur toute petite, mais desséchée, qui n'avait plus d'impact sur sa santé, complètement guérie. Après, il ne voulait plus jamais me quitter, ce jeune-là. Il aurait fait n'importe quoi pour moi, pour m'aider. Pour moi, c'était super, super, super. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, même dans votre travail quotidien, Dieu peut faire des choses super. Hein. Une chose, ça va lui plaire à lui, le professeur. Il y avait des examens de solfège. Je l'aime bien. Il est super, ton mari. Ah oui, c'est toi que j'avais tout à l'heure. Hein. Ah oui. T'es maître d'école, hein, c'est ça. Enfin, tu étais. Voilà. Et en fait, il y avait les examens de solfège. Alors, il me dira si c'est vrai. Quand il y a des examens, un enfant perd au moins 50% de ses qualités. La peur, la crainte. Et puis, nous, et avant de connaître Dieu, j'étais comme ça aussi, on faisait tout pour qu'ils aient peur. En fait, pour qu'ils puissent travailler. C'est-à-dire pour que le niveau soit plus bas que la réalité dans l'examen. Et puis moi, voilà que je me convertis, j'accepte Christ au travers d'une élève. Bien sûr que c'est arrivé comme ça. Et j'ai dit, c'est injuste, mais c'est pas juste. Alors on les mettait dans le couloir, face à face. Il y avait de quoi, la panique. L'un et l'autre se faisaient peur tellement ils avaient peur, quoi. C'était voulu. Et puis, c'est terrible, on est horrible. Hein, c'est... Voilà. Et puis, en fait, on voulait faire des élites, quoi, des gens super, superman. Et puis, donc, moi, j'ai dit, c'est pas juste. Et j'ai commencé à prier pour les enfants dans les couloirs. Je dis, Seigneur, c'est pas juste. Qu'il ait toute la capacité, aucune crainte. Et à chacun, je priais. Ils arrivaient à l'examen. Ils appelaient, les jurys ne comprenaient pas, ils avaient tous bon. Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis regarde dans le couloir, ils m'ont vu prier. Ah non, 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 vous n'avez pas le droit, hein, vous n'avez pas le droit. J'avais perturbé tout le système, et puis les enfants avaient des notes super avec ça. J'ai dit, voilà, j'ai dit, écoutez, vous pouvez faire la même chose. Connaître Jésus, et Dieu peut vous donner les capacités et l'intelligence pour passer au-dessus de tout ce système. Voilà, on ne pouvait pas changer le système, mais je pouvais changer l'état qui était actuel. Et je crois que même dans le travail, oui, on peut être un instrument de bénédiction, quoi. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas coupé en rondelles. Je ne suis pas spirituel le dimanche, puis quand je rentre, je ne suis plus spirituel. Je suis tout le temps spirituel, quoi. Et même si ça va mal ou si ça va bien, mon Dieu, il ne change pas. Hein. C'est moi qui dois m'adapter à lui. Mais je crois que Dieu veut vraiment nous apprendre. Et je crois que Dieu veut nous faire rentrer dans un état d'esprit de dépendance de lui et obéir à sa voix et être là où il veut qu'on soit, dans les endroits où il a prévu, comme on doit être, apprendre. Et pas en fonction de ce que moi je vois ou ce que je crois, mais de ce qu'il dit, quoi. C'est pour ça qu'à partir de là, il n'y aura plus d'erreur, quoi. Même les gens qui ont dit qu'ils ont entendu Dieu et qu'ils n'ont pas entendu, ou des gens qui ont réellement entendu puis qui n'ont pas osé. Puis, il y a tellement de choses comme ça. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui, se laisser malléable entre ses mains. Alors, c'est vrai que c'est un sacré chemin parce qu'on doit renoncer à beaucoup de choses, des fois, au début. Hein. On est travaillé pour avoir de l'amour, pour avoir toutes ces choses. Dieu nous amène à un brisement. J'y ai passé aussi parce que j'avais de quoi être révolté. Je ne connaissais pas l'amour, moi non plus. Mais comment Dieu m'a transformé dans ça et guéri et qui a permis d'être changer aussi. Vous comprenez? Je crois que Dieu veut faire en nous un travail extraordinaire et bouleverser un peu nos vies pour nous rendre capables de suivre ce qu'il nous dit et d'être des fils et des filles de Dieu. Voilà. Je vais arrêter là pour la prédication. Et puis, je ne sais pas si je donne des paroles maintenant, un peu, et puis à 4h30, on arrête et on reprend tout de suite après. Je ne sais pas combien de temps. Voilà. Et puis... Voilà, ou alors on donne des paroles tout à l'heure, comme tu veux. Moi, je suis toujours prêt. Alors, je vais en donner quelques-unes, là. Et puis, voilà. Alors, Dieu parle tout le temps. C'est vrai. On n'est pas à même d'entendre sa voix, parce qu'on n'est pas toujours prêt. Moi-même, je ne suis pas toujours prêt. Mais je donne des paroles en public, c'est enregistré, et puis ils vous donneront les enregistrements, en fonction vous leur demanderez. Mais toute parole que je dis, moi, je veux la soumettre aux autorités locales. Donc, ce n'est pas moi qui est responsable de vous. Moi, je suis un ministère prophétique, mais je ne suis pas au-dessus des responsables de l'Église. Je crois toujours que Dieu a nommé des responsables pour conduire le troupeau. Moi, je ne suis pas de cela. Donc, en dehors de là, je ne donnerai pas de parole particulière, sauf si un des anciens est à côté de moi et qu'eux me le demandent. Mais sinon, je ne ferai pas parce que je veux que ça soit enregistré, je veux que ça soit analysé, je veux qu'il y ait des choses. On peut se tromper, on est des vases de terre, des êtres humains, et Dieu est plus grand que nous, mais c'est vrai, il n'utilise que des gens faibles. Alors, voilà, il faut examiner toute chose, il faut analyser pourquoi c'est enregistré. Quand je donne une parole prophétique aussi, souvent, nous recevons la parole avec un filtre humain, vous comprenez ? Dire avec nos émotions. Et si nous avons vécu des difficultés dans la semaine ou le jour même, on va filtrer avec ça. Et ça veut dire qu'on ne comprendra pas ce qui a été dit. Et s'il y a des chocs émotionnels, on ne va pas entendre comme Dieu voudrait qu'on entende. Donc c'est important de réécouter, même de l'écrire pour ceux qui veulent l'écrire après, puis de vous faire aider par les responsables ou par des gens qui sont un peu plus mûrs que vous spirituellement. On a toujours des gens au-dessus de nous, comme en-dessous de nous, pour pouvoir prier avec eux par rapport à ces paroles, pour pouvoir mieux comprendre. Seul, c'est très difficile, parce que on analyse tellement avec nos émotions, quoi. On a besoin de gens qui nous connaissent et qui nous aident à rentrer dans cela. Une parole peut être, comment dire, effective 10 minutes après, ou même moins, comme elle peut l'être 1 an ou 2 ans plus tard, ou des fois plus. Ça dépend. Il y a des paroles dans la Bible, et je le disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, qui m'a écrit pour me dire « Ah, mais ma parole, ce n'est pas accompli que tu m'as dit il y a 1 an. » J'ai dit « Mais tu vois, dans la Bible, il y a des paroles prophétiques qui ont été données par des prophètes qui ne sont pas encore accomplies. Ça fait 2000 ans passés. » Alors tu vas dire « Un jour est comme 1000 ans, ça ne fait que 2 jours, quoi. » Mais en fait, non, je ne souhaite pas que ce soit 2000 ans pour vous, vous ne serez plus là. Mais comprenez ce que je veux dire. Les temps de Dieu et nos temps, ce n'est pas les mêmes. Et des fois, une parole, il ne faut pas la recevoir comme ça, il faut l'accompagner. Ce n'est pas parce que Dieu nous parle qu'on doit attendre que tout va arriver comme ça. Mais il faut rentrer dedans, mettre le pied, et puis se laisser conduire par l'Esprit. Et souvent, des gens attendent, donc ils attendent longtemps. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas attendre. Et c'est là pour ça que je dis qu'il faut se faire aider, se faire encourager, pouvoir arriver à être vraiment comme Dieu le veut. Voilà. Donc moi, j'ai vu des paroles 10 minutes après s'accomplir. Je ne vous l'ai jamais expliqué, ça. Tant pis, comme ça, je n'aurai des paroles que tout à l'heure. Mais... Ou je vous le dis quand même, là. Alors, c'était une réunion où il y avait des sœurs protestantes, des bonnes sœurs protestantes, vous savez. En Suisse, les sœurs qui s'occupent des gens et qui ont une maison de prière et puis qui prient beaucoup pour eux dans leur lieu. Et les gens viennent en retraite là, les sœurs de Saint-Loup, pour ceux qui connaissent. Bon. Et puis, des sœurs protestantes. Et puis voilà que celle qui dirigeait l'endroit, c'était un endroit, une conférence pour les femmes. Et j'étais orateur avec un autre homme, mais il n'y avait que des femmes. J'ai dit au début... Vous ne croyez pas, vous n'avez pas une femme qui est à la hauteur pour pouvoir parler. Puis il dit, non, Dieu nous a dit que c'était toi. Bon, je veux bien. Moi, je ne connaissais pas cette bonne sœur. Et puis, elle était vraiment virgule. Elle savait ce qu'elle voulait. C'était une sœur qui avait une onction de guérison extraordinaire, qui prêchait magnifiquement bien. Puis, elle organisait tout. Elle avait tout entre ses mains. C'est-à-dire, les logements pour les gens... Les trucs spirituels, enfin, elle faisait tout. Elle avait une équipe, mais les gens n'avaient pas le temps de faire avec elle parce qu'elle le faisait avant, quoi. Et elle courait partout. Et puis, voilà, qu'elle me dit, présente-toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça, c'était avec le comité restreint d'organisateurs. Et puis, je donne à chacun une parole. Je leur explique d'abord ce que je vais faire, puis après, je leur donne une parole. Et puis, arrivé à elle, c'était la dernière, j'ai dit, voilà, tu vas être frappé dans ton corps. Et ça va paraître très grave aux yeux de tous, comme ton cœur qui va s'arrêter. Et puis, parce que Dieu, il veut te rencontrer et il ne peut pas t'arrêter autrement. Alors, il faut absolument t'arrêter pour que tu te mettes devant lui. Et pourtant, c'est une femme de Dieu, je vous promets. Bon, fini la parole, je passe sur plein de choses. Puis voilà, on allait prendre et à ces moments-là, quand on se lève, elle tombe, crise cardiaque. 10 minutes après. Alors, celui qui est orateur avec moi, il est connu pour avoir une onction de guérison. Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Puis moi, je riais. Je dis, oh Seigneur ! J'ai dit, là, je vais avoir des problèmes. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de rire, parce que je savais que c'était ce que Dieu voulait. Et ça venait de s'accomplir. Alors je savais qu'elle n'avait rien, et pourtant tous les symptômes étaient là. Et lui, il est en colère, l'autre monsieur, il dit, tu te rends compte, ta parole l'a détruite. Et puis, je riais toujours, il dit, mais tu vas arrêter de rire. Mais je dis, je ne peux pas faire autrement. Je dis, c'est terrible. Et puis, voilà, les ambulances arrivent, deux ambulances, un pour elle. Ils ont fait le électrocardiogramme, c'est ça, non? Non, pas ça. C'est qu'on fait des trucs de choc, là, l'électricité, là. Voilà. Et puis, enfin, je l'ai toujours vu dans des films, mais pas là. Bon, en réalité, là, je l'ai vu, et rien, elle ne se remettait pas. Alors, ils disent, il faut l'emmener. Alors, partie en ambulance, elle n'a pas pu assister à la conférence, qui avait tout préparé, elle. Les femmes qui étaient avec elle ont dû s'occuper pour faire leur boulot. Puis elle, elle n'était pas là. Tout a marché magnifiquement, et je demande des nouvelles. Personne n'a voulu me répondre. Les gens n'étaient pas contents, hein, dans les responsables. Puis, à la fin, je pars, je dis, personne ne me dit rien. Et moi, je dis, je suis sûr qu'elle est chez elle, quoi. Et il y avait 3 jours de conférence, et je vais chez moi, et vite, je lui envoie un mail. Je dis, comment tu vas? Elle me répond tout de suite. Ah, ben toi, alors? Elle dit, tu te rends compte? Ils ont cherché, j'avais rien du tout, ils m'ont mis un pincemaker, mais ça ne sert à rien, parce qu'en fait, ils n'ont rien trouvé. Et aussitôt que j'arrive à l'hôpital, tout allait bien. En fait, elle n'avait rien. Mais elle dit, j'ai compris la leçon. Elle me dit, maintenant je vais passer du temps avec Jésus, je crois qu'il fallait. Et elle a dit, tu dis rien à personne, surtout pas à ma supérieure. Ils l'ont laissé tranquille parce que quand quelqu'un fait quelque chose, on lui confie toujours plus. Et donc, elle était là une année après ou 2 ans. Je me retrouve dans une grande conférence en Suisse. J'étais orateur encore une fois avec d'autres, mais j'étais orateur. Et elle était là et elle me regarde, elle me fait... Chut, dire surtout, sa supérieure était là juste à côté, il ne faut pas le dire. Et puis j'ai rien dit, puis la fois d'après, je la revois, elle dit maintenant j'ai tout dit, j'ai trouvé que ce n'était pas honnête de dire ce qui s'est passé. Elle a raconté à ses supérieurs, mais elle l'a laissé tranquille parce qu'elle vivait avec son Jésus et elle était tellement heureuse de ce qu'elle vivait là. Dieu l'a renouvelée, Dieu l'a fortifiée. Et tout dernièrement, je suis allé à un truc en octobre, là, il n'y a pas longtemps, à un truc avec Soteria, là, que vous connaissez, et elle était là avec 8 sœurs. Elles disent, on peut soin de Dieu. Elle dit, ils ne sont pas assez devant Dieu. Alors, ils étaient venus pour m'écouter, mais c'était super, super, super. De voir comment maintenant, elle manifeste le royaume de Dieu. Alors, elle est devenue âgée maintenant que toutes les années, mais voir comment... Dieu l'utilise comme une maman maintenant et elle aide la nouvelle supérieure qui est beaucoup plus jeune à faire des choix qu'il faut et tout. Elle prie avec elle. C'est extraordinaire de voir ce qui se passe. De, vous voyez, des fois, une parole peut venir en 10 minutes et puis une parole peut être beaucoup plus longue, quoi. C'est dans ce cas-là que je voulais vous expliquer ça. Il faut que j'arrête de parler parce que je ne vais pas arrêter. Voilà, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Je vais donner une ou deux paroles.